Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous rappelle ce que dit saint Thomas d'Aquin. Et si je vous cite saint Thomas, c'est pour que vous compreniez bien que l'enseignement que je vous donne n'est pas le mien, mais celui de l'Église. Et les applications que je fais ne sont pas de ma volonté propre, mais celles que l'Église nous demande de faire. Saint Thomas nous dit que si nous rendons révérence et honneur à Dieu, ce n'est pas à cause de lui, car il n'a pas besoin qu'on ajoute quelque chose à la gloire dont il est plein. Mais c'est à cause de nous, de façon à ce que notre esprit soit soumis à Dieu. Et saint Thomas continue en disant que l'esprit humain a besoin, pour être uni à Dieu, d'une manuduction, d'être pris par la main, une manuduction sensible. Selon ce que dit l'apôtre saint Paul, par les choses qui sont faites, lorsque nous y réfléchissons, nous sommes menés aux choses invisibles. Et donc, dans le culte divin, il est nécessaire qu'il y ait des actes corporels comme des signes par lesquels l'esprit humain est excité aux actes spirituels par lesquels il est uni à Dieu. Et donc, dans la vertu de religion, il y a des actes intérieurs qui sont comme les actes principaux et qui concernent directement la vertu de religion, des actes extérieurs qui sont secondaires et qui sont ordonnés aux actes intérieurs. Un peu plus loin, lorsqu'il va étudier les actes extérieurs, saint Thomas d'Aquin va les classer en trois catégories. Tout d'abord, les actes corporels. Ensuite, les actes extérieurs dans lesquels nous utilisons les choses qui sont en dehors de nous, par exemple les offrandes que nous faisons à Dieu, et troisièmement, les actes extérieurs dans lesquels nous utilisons les choses divines. Et il dit, ces choses divines sont les sacrements. Et il est donc très notable que saint Thomas d'Aquin mette les sacrements dans les choses extérieures. Et effectivement, quand on va voir l'enseignement de saint Thomas sur les sacrements, il prend bien soin de définir les sacrements qui sont des signes, qui sont des causes instrumentales, c'est-à-dire des instruments, de simples instruments, maniés par la main divine, bien sûr. N'empêche que, en tant que tels, les sacrements sont des instruments. Et saint Thomas a prévu les objections que l'on pourrait faire à la doctrine que je vous transmets. Il pose la question, les sacrements contiennent-ils la grâce? Et il dit, les instruments contiennent peu l'effet. Il dit, ben voilà, la scie a pour propriété de scier. Et donc effectivement, le trait de scie est d'une certaine manière contenu dans la scie, mais le meuble qui est fait avec la scie, lui, n'est pas contenu dans la scie. Il est contenu dans l'esprit du menuisier qui manipule la scie. Je vous ai dit la dernière fois, je vous ai pris l'exemple des personnes qui vieillissent et qui sont de plus en plus privées des actes extérieurs. Je vous ai dit que cela se produisait normalement. La plupart des personnes âgées ont du mal à partir d'un certain âge, ont du mal à se rendre à la messe, à l'église, ont du mal même à se mettre à genoux pour prier, même quelquefois ont du mal à ne pas être distraites en disant un chapelet. Et je vous ai dit, si c'est si habituel, c'est que cela est conforme à la nature, Et nous en avons conclu que si Dieu prive des actes extérieurs, c'est pour presque nous obliger à une plus grande richesse intérieure. Il se passe la même chose dans les épreuves de l'Église. Et les épreuves de l'Église se sont faites pour nous, en ce qui nous concerne, en deux temps. Tout d'abord, il y a eu la nouvelle messe, la messe moderne, et Dieu a été bien bon de permettre que la messe moderniste soit si ouvertement scandaleuse. Parce que cela nous a ouvert les yeux, et il est certain que ce problème de la messe moderne nous a fait réfléchir sur ce qu'est vraiment la messe, et il est certain qu'il y a eu un progrès chez les traditionalistes qui ont redécouvert la valeur de la messe au-delà du rite. Ils étaient habitués à un rite et ils sont allés au-delà du rite. Le Monseigneur Lefebvre disait qu'il valait mieux se priver de messe que d'aller à la messe moderne, et sa réponse la plus claire, la plus nette, est parue dans un bulletin, dans le bulletin de la Fraternité Saint-Pie-X au Canada. L'abbé Émilie était supérieur de district à l'époque, et il lui pose la question: Monseigneur, que faire? Alors là, ce ne sont plus les messes de Paul VI, ce sont les messes de l'indulte, c'est-à-dire les messes de Saint-Pie V, par des prêtres qui ont rejoint l'Église moderne. Et Monseigneur Lefebvre lui dit, il n'est pas question d'aller à la messe de ces prêtres-là. L'abbé Émilie lui dit, oui, mais il n'y a pas beaucoup de messes et de prêtres vraiment fidèles au Canada, et donc beaucoup de fidèles vont être privés de messes. Eh bien, dit Monseigneur, qu'il n'aille à la messe qu'une fois sur deux. Et l'abbé Émilie insiste en disant, mais même cela, Monseigneur, une fois sur deux, vu les distances à parcourir, et Monseigneur dit mais qu'il n'aille qu'une fois par mois, qu'ils réservent leur temps, leur énergie pour y aller une fois par mois, et qu'ils sanctifient le dimanche sans messe les autres fois. Pourquoi Monseigneur Lefebvre demandait-il qu'on s'abstienne de la messe de Paul VI, même si cela obligeait à se priver de messe? Les études ont été faites, notamment par M. Saleron, dans l'étude sur la nouvelle messe. Un des graves problèmes de la messe moderne, c'est son ambiguïté. Et cette ambiguïté porte sur le sacrifice, c'est-à-dire sur l'union à Dieu, sur la consécration de nous-mêmes à Dieu. Pour nous, le sacrifice se fait à travers la croix et par notre Seigneur Jésus-Christ en croix. Pour eux, le sacrifice est tout à fait autre chose. C'est les droits de l'homme qui réinterprètent le sacrifice d'une façon complètement à l'envers. Et la nouvelle messe n'est pas une messe strictement des droits de l'homme, parce que sinon, ça serait plus une messe, ça serait plus valide, ça serait autre chose, ça serait une prétendue religion qui aurait été fondée, comme vous avez les musulmans qui ont prétendu fonder une religion ou d'autres. Non, elle est ambiguë. Et Mgr Lefebvre disait, je n'ai jamais dit que cette messe était toujours invalide, donc elle peut être une messe, mais même lorsqu'elle est valide, elle est une messe ambiguë. Et c'est à cause de cette ambiguïté qui crée un danger pour la foi que Mgr Lefebvre demandait qu'on s'abstienne d'y participer. C'était toujours le grand argument de Mgr, le danger pour la foi. Et lorsque les épreuves de l'Église ont avancé, ont augmenté, nous avons eu la messe traditionnelle dite par des prêtres alliés aux modernistes et quasiment modernistes, puisque il faut bien vous rappeler, mes bien chers frères, que le Barou, les moines du Barou, qui étaient avec nous au début, et qui ont continué à dire la messe traditionnelle après leur ralliement à la Rome moderne, les moines du Barou justifient l'enseignement de Vatican II sur la liberté religieuse. Pour eux, la liberté religieuse telle qu'elle est enseignée par Vatican II est conforme à la tradition. Donc on voit bien que le ralliement n'est pas purement extérieur, purement nominal. C'est un ralliement de fond à des convictions. À cause de cela, la messe qu'il célèbre va créer une ambiguïté. On pourrait prendre l'exemple suivant. Vous avez une fête de famille. En fait, le grand-père, c'est 80 ans, par exemple. Et évidemment, tous les petits-enfants sont invités. Vous avez les petits-enfants qui viennent avec de la musique moderne, avec du rock, que sais-je. Et inutile de vous dire que cela ne plaît pas au grand-père. Alors on leur dit non, pas question. Et puis vous avez les petits-enfants qui viennent pour faire plaisir au grand-père, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent en ayant préparé des compliments, des poèmes, que sais-je. Et entre les deux, vous avez des petits-enfants qui viennent, effectivement, ils vont se tenir sagement, ils vont participer à la fête, mais leur but, c'est de retrouver des cousins avec lesquels on va pouvoir faire la fête et en faire un peu à sa tête. Étant en réunion de famille, enfin, on peut s'amuser avec des cousins comme si c'était des copains. C'est un petit peu la même chose avec ceux qui ont rejoint la messe moderne, l'église moderne. Ils ont gardé toutes les apparences, la bonne messe, mais ils viennent à la fête non pas pour honorer le grand-père, ils viennent à la fête pour s'amuser. Et cette ambiguïté est d'autant plus grave qu'elle porte plus loin, pas seulement sur la notion de sacrifice, mais finalement sur toute la religion chrétienne. Il est évident qu'il y a dans le culte, puisque le culte public est quelque chose de sensible, il est évident qu'il y a avec la fraternité Saint-Pinis de très grands dangers. Le premier danger, c'est celui-ci de croire qu'on continue à être traditionnaliste alors qu'on ne l'est plus. Alors qu'on va à la fête du grand-père pour s'amuser et non pas pour honorer le grand-père. Qu'on va à la messe, finalement, pas en premier pour adorer Dieu, mais pour, je vous l'ai souvent dit, c'est une religion un peu sociologique, une manière sociologique de pratiquer la religion. Il y a également les amitiés, ça compte énormément. Et puis, il y a cette influence, vous voyez, il y a un but qui est poursuivi. Et ce but va avoir de l'influence. Lorsque on fait quelque chose, il y a toujours un but qu'on poursuit et qui va modeler ce qu'on fait. Les jeunes qui viennent s'amuser à la fête du grand-père ne vont évidemment pas préparer la fête de la même manière que ceux qui veulent honorer leur grand-père. Même s'ils semblent faire les choses correctement, le but sera de rejoindre les copains. Vous avez la même chose dans la fraternité Saint-Pinis. Le but est de rejoindre le monde. Et même lorsqu'ils font les choses bien, en apparence, par exemple, c'est très net au pèlerinage, et depuis longtemps, le pèlerinage, sous prétexte de piété, est un moyen de rejoindre les amis, des copains. Comment nous y nous sortir de ce problème, nous allons cultiver la vie intérieure et nous allons nous rendre compte que la messe a pour but de produire en nous l'union à Dieu et qu'on est toujours unis à Dieu, mais pas toujours à la messe. Et donc nous allons profiter de la liturgie et nous allons la méditer, nous allons en vivre, même pendant les périodes où nous n'avons pas de messe, même si ces périodes peuvent être longues. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la grande source de la dévotion, c'est la contemplation des mystères de Dieu et la méditation de ce qu'est Dieu pour nous et nous pour lui. J'y viendrai, ça sera un sermon complet. Mais dès maintenant, parce que je ne veux pas rester sur une note purement négative, c'est justement ce que Dieu veut, des adorateurs en esprit et en vérité. Et pour cela, la méditation, la contemplation, nous sortir des choses de ce monde de manière à vivre en union à Dieu. Voilà, mes bien chers frères, je voudrais dire également un mot sur le caractère public du culte. Il peut y avoir une ambiguïté dans le culte à titre privé, j'allais dire, c'est-à-dire pour nous. Et il peut y avoir une ambiguïté publique, c'est-à-dire visible par tout le monde et qui atteindra tout le monde. La nouvelle messe est dangereuse pour notre foi personnelle parce qu'il y a une ambiguïté qui risque de nous atteindre personnellement. Mais elle est également dangereuse en tant que culte public parce qu'elle fausse le culte qui est rendu à Dieu en société. Pourquoi elle le fausse? Parce qu'elle donne à croire au monde que la nouvelle messe est une manière légitime d'honorer Dieu alors que ce n'est pas vrai. Vous avez toute la communion dans la main, vous avez l'autel retourné vers le peuple, etc., qui fait croire qu'on honore vraiment Dieu et qui va créer un état d'esprit faussé dans la société et pas seulement chez les individus. Pas seulement chez un ou quelques individus. Et ça, mes bien chers frères, vous le voyez, ça saute aux yeux. La nouvelle messe a faussé la conception de la religion dans l'Église. Il en irait de même si nous assistions à des messes traditionnelles par des gens qui ont rejoint la Rome moderne ou dans une structure qui est liée à la Rome moderne. Cela fausserait la clarté du culte rendu en public à Dieu. Avec qui honore-t-on Dieu? Ce n'est pas pour rien que l'Église nous demande le dimanche d'aller à la messe paroissiale, et le dimanche, et non pas n'importe quel jour de la semaine, parce qu'il y a un aspect public au culte, il y a un aspect privé, bien sûr, ça c'est la prière, la maison, et il y a un aspect public. Et les sacrements sont une manuduction non seulement pour chacun d'entre nous, mais pour le peuple tout entier. Les sacrements créent une mentalité dans le peuple chrétien. Il est une évidence que des bons sacrements célébrés par des gens ambigus vont créer une ambiguïté. Une ambiguïté d'autant plus difficile à arracher et à combattre que les sacrements, eux, sont en ordre en apparence et que c'est tout le contexte qui vient fausser les choses. Bien sûr, si on ne veut pas ouvrir les yeux, il est facile de ne pas voir. On va dire, oh, si ce n'est qu'une ambiguïté, oh, si ce n'est qu'un danger à long terme, oh, si ces sacrements-là sont quand même valides, après tout, on peut quand même en profiter. Le résultat, vous l'avez vu avec la messe moderne, en une trentaine d'années de messe, la mentalité chrétienne a changé. Le résultat, vous le voyez dans la Fraternité Saint-Pédis, le ralliement à la Rome qui dure depuis maintenant officiellement une vingtaine d'années, puisque c'est le pèlerinage de l'an 2000 à Rome. Pèlerinage qui justement était un acte public de culte qui a été très ambigu, parce que on était accueilli sans être accueilli, à bras ouverts, avec quelques réserves malgré tout. Et, mais qui en réalité, ce ralliement dure depuis avant l'an 2000, ce ralliement a fini par changer la mentalité de la Fraternité Saint-Pédis. Eh bien, mes bien chers frères, si vous participez au pèlerinage de la Fraternité, vous prendrez leur esprit. Si vous participez aux messes de la Fraternité, vous prendrez leur esprit. Si vous participez à la vie de la Fraternité, vous prendrez son esprit. Inexorablement. Alors on nous dira, mais on a besoin de cela. Saint Thomas nous dit, autant que, pas plus que, et la Providence nous montre quelle est la bonne mesure entre le trop et le trop peu. Parce que la Providence fait que, soit parce qu'on est prisonnier, soit parce qu'on est dans un pays étranger, on a la messe tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, on sait que c'est la bonne mesure. Lorsque la Providence nous mettait autrefois près d'un prieuré, près d'une chapelle, où on pouvait aller à la messe tous les matins, on savait que cela, c'était la bonne mesure. Celui qui ne l'aurait pas fait aurait manqué à ce que Dieu lui proposait. C'est la Providence qui nous montre les choses, et il faut suivre la Providence, et il faut méditer sur les raisons qu'a la Providence d'agir ainsi. Et par conséquent, comme le bon Dieu ne nous manque jamais, ne fait jamais défaut, si nous ne pouvons plus avoir les sacrements aujourd'hui comme nous les avions autrefois, eh bien, sachons que on arrivera malgré tout à s'en sortir, et même les enfants. Mais les enfants, j'allais dire, c'est pas eux qui en ont le plus besoin, parce qu'ils suivent leurs parents. Alors c'est les parents qui leur donnent la béquille, comme les parents oiseaux donnent la béquille à leurs petits dans le nid. Voilà, je pense qu'il fallait tout un sermon pour vous expliquer ces choses-là, parce que c'est ce dans quoi vous vivez. Et priez Dieu, nous allons voir... dans le sermon suivant, ce qu'est la prière, nous allons détailler les moyens par lesquels, nous allons parler de la contemplation également, de la méditation en détail, nous allons voir les moyens par lesquels on cultive la vie intérieure sans être désemparé par la privation du culte extérieur. Que la très sainte Vierge soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.